Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux ce soir de recevoir Delphine Diaz, qui est historienne, maîtresse de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Elle a fait ses études à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Elle a achevé en 2012 une thèse dont elle a tiré un ouvrage paru en 2014 aux éditions Armand Collin et dont le titre, à la forme interrogative, est le suivant. Un asile pour tous les peuples, exilés et réfugiés étrangers dans la France du 1er 19e siècle, un ouvrage primé dont elle va nous délivrer la teneur au cours de sa présentation. Elle coordonne actuellement un important programme de recherche intitulé Asile Europe 19, ou peut-être 19e.
Non, c'est 19.
C'est 19. Et dédié à une histoire transnationale de l'asile politique dans l'Europe du 19e siècle. Et alors ici, à Mendès France, après avoir reçu des chercheurs travaillant sur des thèmes voisins, je pense notamment à Ilsen Abou, que nous avons reçu récemment en janvier, spécialiste de l'histoire des mondes tziganes dans l'Europe moderne, et surtout je pense à Juliette Denis, que nous avons reçue en décembre et qui est spécialiste pour sa part de ce que l'on a appelé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale les « DIPIs », les personnes déplacées. Donc nous voilà ce soir invités à découvrir une autre séquence historique de l'exil, de l'asile, du refuge, une séquence qui nous mène dans un premier âge de l'asile politique en France et que Delphine Diaz aborde à travers un double questionnement. Le premier questionnement porte sur la politique d'accueil, qui est aussi une politique de contrôle, elle va nous l'expliquer, des exilés étrangers par les autorités françaises dans le premier 19e. Et le second questionnement s'attache au parcours de vie de ces mêmes réfugiés dont les trajectoires françaises, mais aussi transeuropéennes et transatlantiques, montrent qu'ils n'ont jamais cessé d'être des acteurs engagés, bouillonnants, sur les scènes politiques et sociales de leur temps. Donc je vous laisse la parole pour
Merci beaucoup. Alors pour commencer, je souhaiterais bien sûr remercier très vivement le Centre de culture scientifique de m'accueillir aujourd'hui, ainsi que les collègues qui m'ont fait le plaisir de cette invitation donc du laboratoire Migrinter. La question de l'exil, de l'asile, elle est placée au cœur de notre actualité, aussi bien de la scène internationale avec l'exil syrien, ou avec bien sûr l'actualité politique de notre propre pays et la question de son rôle d'accueil, de son rôle de terre d'asile. Cette actualité, elle peut nous amener aussi à vouloir réinterroger le passé de ces phénomènes de migration politique, et plus largement de migration contrainte. Et c'est aussi plus précisément le passé de la France comme terre d'accueil, comme terre d'asile, qui peut être envisagée, questionnée. On peut, à juste titre, s'interroger sur la validité des représentations de la France comme pays aux fortes traditions d'accueil, comme nation accordant l'asile de manière universaliste. Ces représentations sont aujourd'hui fréquemment utilisées dans le débat actuel portant sur les migrants et les demandeurs d'asile, les réfugiés. Elles le sont notamment aussi pour dénoncer les déceptions que peut provoquer la France dans son rôle de terre d'accueil, à l'heure où son voisin allemand l'a très largement dépassé dans cette fonction, alors même que les États allemands, si on revient au XIXe siècle, étaient à l'époque davantage bien sûr des terres d'émigration que des terres d'accueil. Donc là, on a une sorte d'inversion des rôles qui est soulignée par tous les chiffres dont on dispose. Si on pense notamment aux chiffres de l'année 2015, pour avoir un ordre de grandeur, on sait qu'en Allemagne, on a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile sur l'année 2015 contre 80 000 demandeurs d'asile, 80 000 demandes d'asile enregistrées en France par l'OFPRA. Donc ici, une inversion des rôles si on s'intéresse uniquement au couple franco-allemand. Alors ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de revenir à ce passé de la France comme terre d'accueil et de revenir à une période vraiment fondatrice, le XIXe siècle, où se forge très précisément cette représentation d'une terre accordant l'accueil de manière universaliste. Un passé de France d'accueil, de France terre d'accueil qu'il faut aussi réinscrire dans un contexte européen, puisque la France n'est pas la seule à connaître l'accueil de ces personnes déplacées dans le cadre de migrations politiques, de migrations contraintes. En effet, dans l'Europe du XIXe siècle, l'exil tend à s'imposer comme une forme de migration, mais aussi comme une forme d'action politique. Hein. Ça devient une sorte de passage obligé pour les opposants politiques en but à la répression dans leur pays, à ce moment-là. Et dans le cas italien, par exemple, hein, c'est ce qu'affirme un patriote lombard qui s'appelle Carlo Cattaneo, hein, qui parle de l'exil comme d'une véritable institution politique. Hein, c'est le terme qu'il emploie pour décrire l'exil au cours de la première moitié du XIXe siècle dans la péninsule italienne. Et cette citation, elle peut finalement être reprise hein, pour parler effectivement de la migration politique dans l'Europe, dans son ensemble, hein, même si ici, bien sûr, je me centrerai davantage sur le cas de la France comme terre d'accueil. Alors, l'exil comme passage obligé pour les opposants politiques, comme migration qui tente à se généraliser, à s'imposer, à s'institutionnaliser. Mais même si l'exil politique s'institutionnalise, il reste pourtant, encore à l'époque, en France, un objet assez difficile à cerner, en l'absence d'une définition juridique, d'une définition stable de ce que c'est que l'exil, de ce que c'est que le réfugié à l'époque. En effet, si on parcourt les dictionnaires de langue française du 1er 19e siècle, on se rend compte que cet objet exil est encore assez imprécis. Hein. Pensons ici au dictionnaire de l'Académie française dans son édition 2835, au début de la monarchie de Juillet. L'exil est défini hein, comme l'état de celui que l'autorité force à vivre hors du lieu, hors du pays où il habitait ordinairement. Donc on voit que peu à peu, malgré tout, hein, c'est la définition de l'exil comme forme de migration internationale qui tend à se dessiner. Et ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, au fil du XIXe siècle, on va voir ces définitions peu à peu se préciser malgré tout, puisque initialement elles sont très alimentées par des références à des exemples tirés de l'Antiquité, hein, grecque ou romaine, pour illustrer ce que c'est que l'exil. Et puis peu à peu, on voit à travers ces dictionnaires, ces encyclopédies, que l'exil est peu à peu illustré par des références à un temps très contemporain, à des phénomènes d'exil beaucoup plus contemporains. Hein. Par exemple, si on se réfère au grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, qui est publié donc à la fin du siècle, hein, on voit effectivement qu'à cette date, dans l'article « Exil », on ne va plus s'inspirer de l'Antiquité grecque et romaine pour illustrer l'article, mais au contraire, on va désormais s'inspirer en fait de l'actualité de l'époque. Hein, actualité plus ou moins récente, hein, puisque Pierre Larousse évoque, je cite, « les révolutions hein, dont notre siècle a été si prodigue, qui ont semé l'Europe de proscrits, de toutes les causes et de tous les pays. Pendant que l'Italie, essayant en vain à plusieurs reprises de secouer la double tyrannie des Bourbons et des Habsbourg, voyait s'exiler après ses efforts malheureux ses plus courageux enfants, le plus pur de son sang, la réaction despotique vaincue en Espagne, envoyait au-delà des Pyrénées, donc en France, d'innombrables carlistes. » On va en reparler. En même temps, du fond de la Pologne, trois fois écrasée par l'autocratie russe et foulée aux pieds des Cosaques, arrivée dans la France hospitalière, d'innombrables Polonais. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe un changement de référent. C'est désormais par l'actualité, par les exemples de ces exilés étrangers accueillis en France au cours du XIXe siècle, qu'on va illustrer les articles exil, exilés, réfugiés. C'est l'indice aussi qu'au cours de la première moitié du XIXe siècle, s'est opéré un tournant pour la France. Désormais, hein, les notions d'exil et d'asile sont directement associées à cette référence aux opposants européens installés en France pour des raisons politiques et sont associées à la fonction d'asile que le pays avait d'ores et déjà assumée en fait, dès la fin de l'Ancien Régime et surtout au début de la Révolution française. Alors, je vais effectivement parler du XIXe siècle, mais il faut souligner que cette fonction d'accueil des étrangers persécutés pour des motifs politiques, elle n'est pas née ex nihilo au XIXe siècle, bien sûr. En particulier, si on revient hein, sur la fin du règne de Louis XVI, qui avait par exemple accueilli en grand nombre ceux qu'on appelait les patriotes hollandais. Hein, à partir de 1787, hein, la France accueille en très grand nombre, sans doute 5000 personnes, ce qui est considérable à l'époque, donc ces patriotes qui avaient fui l'invasion des Pays-Bas par la Prusse et qui s'installent en France à la fin donc, du règne de Louis XVI. Mais il faut attendre la Révolution française, et tout particulièrement la Convention, hein, et l'adoption de la Constitution montagnarde de 1793 hein, et de son article 120 pour que l'asile accordé en France aux exilés soit pour la première fois reconnu comme un devoir pour le pays. Hein, dans cette Constitution montagnarde de juin 1793, qui n'a jamais été effectivement appliquée, mais qui reste une référence hein, tout au long du XIXe siècle pour la gauche et l'extrême gauche française, on a un article en effet qui énonce que la France doit accorder l'asile hein, à ceux qui sont chassés de leur pays pour avoir défendu la liberté. Alors, la différence aussi qu'on voit par rapport à la fin de l'Ancien Régime, hein, c'est qu'à partir de la Révolution française, l'asile n'est plus conçu comme un bienfait ponctuel, hein, ponctuellement accordé à un groupe par un monarque, mais devient véritablement un devoir pour la République. Un devoir pour la République qui s'effectue de manière sélective. On n'accorde pas l'accueil à n'importe qui, mais à ceux qui défendent la liberté. Hein, au contraire, ceux qui sont du côté des tyrans sont fermement rejetés. Alors, il faut bien voir qu'on a tout ce substrat hein, dans lequel s'inscrit la tradition d'asile en France, avant même le début du XIXe siècle. Pour ma part, aujourd'hui, je parlerai essentiellement de la première moitié du XIXe siècle, en allant de la fin du Premier Empire, hein, des années 1813-1814, on va voir pourquoi, jusqu'à la fin de la Seconde République, en 1852. Une période donc qui constitue un moment charnière dans la définition de qui est un réfugié, de qui peut être qualifié de réfugié, et aussi dans la mise en œuvre de politiques concernant ces réfugiés étrangers. Alors pourquoi un moment charnière ? D'abord parce que c'est une époque où le nombre des exilés étrangers accueillis augmente hein, considérablement. C'est aussi un moment où leurs origines géographiques se diversifient profondément. Et c'est ce qui explique aussi l'adoption de nouvelles mesures pour statuer sur leur sort, nouvelles mesures qui vont contribuer hein, à une clarification de ce qu'on entend par réfugié. Donc ce sera globalement l'objet de ma première partie. Hein. Qui sont ces exilés? Comment ils sont reçus par l'État? Et comment, peu à peu, la définition de l'exilé et du réfugié tend à s'affiner? Par ailleurs, et ce sera là le second moment de ma conférence, hein, le sort des réfugiés, et notamment de ceux qui reçoivent une aide de l'État, puisque les réfugiés à l'époque recevaient une aide financière de l'État pour subvenir à leurs besoins, hein, le sort de ces réfugiés va aussi de retenir notre intérêt. Hein, quel a été leur devenir par rapport aux autres étrangers alors établis en France, par rapport à ceux qui n'ont pas bénéficié de ces secours hein, pour motifs politiques? On va essayer de s'intéresser effectivement aux voies qui se sont présentées à eux pour réamorcer une vie sociale nouvelle en France, en particulier lorsque le séjour d'exil hein, se pérennisait beaucoup plus longtemps que prévu initialement. Enfin, la dernière partie de cet exposé concernera l'engagement politique de ces étrangers en France, qui est finalement la véritable pierre de touche pour savoir qui peut être défini comme un exilé. On verra ensemble la différence qu'on peut établir entre ces deux notions, réfugié, exilé. Qui est, et surtout qui reste, un exilé durant le séjour en France, puisqu'effectivement, certains exilés qui étaient arrivés pour des motifs politiques, hein, qui étaient arrivés sous la contrainte en France, vont peu à peu renoncer à cet engagement, tandis que d'autres, au contraire, vont tout faire pour le perpétuer d'une manière ou d'une autre. Donc en essayant d'être attentive à ces engagements politiques d'exil, hein, j'essaierai de montrer que les étrangers contraints au séjour dans la France du 1er 19e siècle ont pu partager avec les Français des modes de politisation, des modes d'engagement, mais qu'ils ont pu aussi être inventifs hein, et inventer leur propre façon de continuer à faire de la politique depuis l'étranger. Ce sera donc pour le dernier temps de cette intervention. Alors pour la première grande partie, hein, je vais parler effectivement de la composition de cet exil étranger, d'où viennent ces exilés politiques accueillis par la France, et comment ils sont reçus par l'État, par l'administration, et aussi un petit peu, on en parlera également, par la société civile. D'abord, qui sont-ils et d'où viennent-ils à l'époque? Qui sont-ils ou d'où viennent-ils? Alors d'abord, il y a un effectif très important qui est constitué par les Espagnols. Par les Espagnols, et à plusieurs reprises, l'Espagne va être émettrice de flux hein, vers la France au cours du XIXe siècle, Alors ça continuera ensuite au XXe siècle, bien sûr, avec la guerre civile espagnole, avec des effectifs bien plus importants. Mais là aussi, on voit une tradition déjà très importante d'envoi, d'expulsion de ces exilés politiques vers l'autre côté des Pyrénées. Alors tout cela commence effectivement dans les années 1813-1814. On est à la fin du Premier Empire. Pourquoi commencer par ce moment-là? Eh bien parce qu'on a à cette époque-là donc un régime qui avait été mis en place par Napoléon Ier en Espagne, un régime d'occupation. Il avait placé son frère Joseph à la tête d'un royaume en Espagne, d'un royaume bonapartiste en Espagne. Et dans ce royaume, donc dirigé par Joseph Bonaparte entre 1808 et 1813, beaucoup d'Espagnols se sont engagés aux côtés des Français, aux côtés de l'administration française. Cet engagement a pu notamment se faire en raison d'une proximité avec la philosophie des Lumières, que les Français, à leurs yeux, continuaient d'incarner. Et ces Espagnols, on va les qualifier du côté français, de Joséphins, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se sont engagés aux côtés du roi Joseph. Les Joséphins du côté espagnol, alors en Espagne on parle d'afrancesados, c'est-à-dire des gens qui sont francisés, littéralement. Et ils constituent un groupe extrêmement important pour l'époque, puisqu'on estime, à partir des sources notamment diplomatiques qu'on a sur cet exode, mais aussi des sources policières qu'on a des deux côtés de la frontière, on estime que c'était un groupe d'environ 10 000 à 12 000 personnes. 10 000 à 12 000 Espagnols donc, qui traversent les Pyrénées entre 1813 et 1814. Alors après, à la fin de l'Empire, c'est le régime de la Restauration qui commence. Régime de la Restauration qui va hériter de l'accueil de ces exilés bonapartistes. Vous voyez bien toutes les contradictions idéologiques que ça peut susciter. Et ce régime de la Restauration va aussi devoir, finalement, hériter donc de cette difficile gestion des exilés espagnols, mais aussi faire face à de nouvelles arrivées, en particulier d'exilés libéraux, engagés pour la cause de la liberté des peuples et de la liberté politique en général, que ce soit un petit groupe d'exilés grecs durant la guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman, ou encore, plus nombreux, des exilés italiens en 1821, et encore une fois, de nouveaux exilés espagnols pendant et après le triennat libéral, qui est un régime libéral éphémère entre 1820 et 1823. Alors, par rapport aux exilés joséphins, par rapport aux exilés espagnols de 1813-1814, on a des effectifs qui sont beaucoup moins nombreux. Beaucoup moins nombreux, en grande partie aussi parce que la France ferme la frontière, décide de filtrer les arrivées aux frontières, en particulier pour les exilés italiens en 1821. On a des circulaires qui demandent aux préfets de ne surtout pas accepter sur le sol de leur département ces exilés libéraux qui pourraient potentiellement représenter un risque politique pour le régime de la Restauration. Donc ils arrivent davantage au compte-gouttes sous la Restauration. Et il faut attendre en fait la fin du régime de la Restauration sous le règne de Charles X pour avoir de nouveau un groupe important, là encore de libéraux, cette fois-ci en provenance du Portugal, en proie à une guerre civile au cours des années 1820. Ces exilés portugais qui arrivent en 1829 par la Bretagne et qui sont accueillis contre son gré par Charles X. Donc la Restauration, on le voit, a malgré tout accueilli des exilés politiques, même si les directives étaient relativement fermes pour au maximum rejeter l'arrivée de ces nouveaux exilés politiques. Néanmoins, on voit bien que malgré tout, la fonction d'accueil se perpétue, y compris sous le règne de Louis XVIII. En revanche, il est vrai que sous la monarchie de Juillet, à partir de la monarchie de Juillet, de la révolution de juillet 1830, qui fait advenir en France un nouveau régime, le régime de Louis-Philippe, qui reste une monarchie constitutionnelle, eh bien, on a effectivement, à partir de là, un phénomène de diversification des origines géographiques. Vous avez vu, avec la précédente diapositive, qu'on parlait surtout jusqu'ici d'une émigration venue de l'Europe méridionale. Je vous ai parlé de la Grèce, de l'Espagne, de la péninsule italienne. Et à partir de la monarchie de Juillet, effectivement, on voit les origines se diversifier. Origine qui se diversifie, même si, bien sûr, l'Europe méridionale reste encore une des grandes émettrices de flux, en particulier l'Italie centrale, qui entre dans une phase d'insurrection en 1831, mais également, de nouveau, encore l'Espagne, encore et toujours l'Espagne, elle aussi en proie à une guerre civile dans les années 1830, guerre civile qui va opposer la monarchie devenue libérale et ce qu'on appelle les carlistes, qu'on a vu mentionner tout à l'heure dans la définition de Pierre Larousse, qui sont les carlistes, pour traduire, ce sont des légitimistes, partisans de l'arrivée sur le trône de l'infant Don Carlos, qui était donc un légitimiste, contre-révolutionnaire. Donc on le voit aussi, on a à la fois une diversification des origines, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les opinions politiques de ces exilés, elles sont tout à fait différentes. Ça va du libéralisme jusqu'à la contre-révolution. Et un fait absolument majeur qui se produit au début de la monarchie de Juillet, c'est l'arrivée de ce qu'on appelait la grande émigration polonaise entre 1831 et 1832. Grande émigration polonaise qui voit l'arrivée de milliers de Polonais en Europe de l'Ouest à la suite de l'échec d'une révolution à Varsovie contre l'emprise russe. Et cette grande émigration polonaise, on sait, grâce aux sources dont on dispose sur ces réfugiés polonais accueillis en France, on sait qu'ils ont été au moins plus de 4 000 personnes à être secourues dès l'année 1832. Je parle là uniquement de ceux qui ont reçu des secours de l'État, sachant qu'en réalité, il y en a eu bien d'autres qui n'ont pas reçu de secours, ce qui fait qu'on estime à peu près que cette population accueillie en France, elle devait au moins avoisiner les 6 000 personnes si on intègre les non-secourus. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au lendemain des Trois Glorieuses, au lendemain donc de la révolution de juillet 1830, la classe politique dans son ensemble, au début du règne de Louis-Philippe, a le sentiment d'un afflux sans précédent d'exilés venus de toute l'Europe. Par exemple, le préfet de police de Paris de l'époque, qui s'appelle Henri Gisquet, qui va publier ses mémoires. Et dans ses mémoires, on va avoir une omniprésence de la question de l'accueil des exilés politiques qui focalise l'attention, qui focalise aussi les inquiétudes du pouvoir, il faut bien le dire. Et Gisquet parle, par exemple, pour le début des années 30, de ces 6 000 Polonais, 4 000 Allemands, Italiens, Espagnols, Portugais, échappés aux orages politiques et recueillis par la France. Les années 30, donc, comme des années effectivement fondatrices, même si elles ont été suivies d'une autre grande séquence, et après donc je m'arrêterai là pour ce qui est effectivement de la question de l'accueil et de la composition de ces exilés, la composition géographique de ces exilés. Autre grand moment, dernier grand moment, c'est la Seconde République, 1848-1852, même si le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte intervient en décembre 1851, c'est en 1852 que la République meurt officiellement. Des années également très importante, puisque on est en plein printemps des peuples, et ce printemps des peuples va aussi mettre les peuples sur le chemin de l'exil, en particulier du côté, bien sûr, de la péninsule italienne, mais également de l'Empire d'Autriche, des États allemands, qui sont là aussi concernés par l'exil. Et ce qu'on constate, c'est effectivement que au cours de l'année 1848, on va avoir une augmentation très importante du nombre de demandes de secours. Et là, effectivement, j'ai réussi à retrouver des chiffres à travers les archives parlementaires. On sait qu'on avait 8000 demandes de secours à peu près pour raisons politiques par des réfugiés en 1847, et ça gonfle brutalement. On passe à 12 000 à la fin de l'année 48. Ainsi, on a des populations qui viennent d'endroits quand même très différent, même si on a bien noté la prépondérance de l'Europe méridionale comme zone vraiment d'émission de ces migrations contraintes. On a des populations très différentes qu'il faut accueillir, et pour celles-ci, on va donc mettre en œuvre des dispositifs d'accueil plus ou moins efficaces, parfois assez tâtonnants, il faut bien le dire. C'est pour ça que je ne parle pas de politique d'accueil ou de politique d'asile, hein, ce qui ferait penser à quelque chose de bien formalisé, bien clair, bien homogène. On est là, à cette époque, encore dans le tâtonnement. Dans le tâtonnement, et ce tâtonnement, il se matérialise tout particulièrement avec l'accueil des Joséphins espagnols à la fin du Premier Empire. Effectivement, pour ces Espagnols qui arrivent en masse, hein, entre 1813 et 1814, on va devoir assez rapidement donc pourvoir à leurs besoins. Et c'est le ministère de la guerre qui s'en occupe à l'époque. Le ministère de la guerre, c'est l'ancêtre de notre ministère de la Défense, qui s'occupe d'encadrer cette population de Joséphins espagnols. Alors on va les diviser entre deux groupes, et c'est un principe qu'on va observer avec tous les groupes de réfugiés au cours de cette époque-là. On divise entre deux groupes, donc d'un côté les civils, de l'autre côté les militaires, qui ne sont pas assignés dans les mêmes endroits. Et on va prendre le parti de répartir ces deux groupes dans le midi de la France, initialement, dans ce qu'on appelle des dépôts de réfugiés. C'est le terme de dépôt hein, qui est employé, et qui n'est pas nouveau en réalité, puisqu'il avait déjà été employé en 1787 pour qualifier les modes d'hébergement reçus par les patriotes hollandais dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction. Donc ce n'est pas tout à fait neuf. On réactive ce fonctionnement, ces dépôts de réfugiés. Dépôts de réfugiés, donc dans le midi de la France, et les réfugiés eux-mêmes sont divisés en plusieurs classes en fonction de leur grade militaire ou de la position qu'ils occupaient dans l'administration, puisque c'était très souvent des membres de l'administration hein, qui s'étaient exilés d'Espagne à cette époque-là. Et par ailleurs, ces réfugiés vont bénéficier assez rapidement de secours, hein, secours versés donc initialement par le ministère de la guerre. Et à cet égard, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit peu à peu, notamment au début de la Restauration, que cette population donc, qui pose un certain nombre de problèmes, hein, puisque ce sont des bonapartistes, hein, donc des ennemis hein, par définition du régime de Louis XVIII, cette population qui était initialement donc, assignée à résidence dans le midi de la France va peu à peu être déplacée vers le nord. On essaie notamment de l'éloigner de la frontière avec l'Espagne. Et en particulier, en 1818, il y a un important dépôt de réfugiés espagnols qui est fondé à Poitiers pour accueillir précisément hein, ces réfugiés, notamment venus des Landes hein, et des Basses-Pyrénées pour éviter effectivement tout risque de retour vers l'Espagne. Un important dépôt de réfugiés espagnols à Poitiers donc, qui a accueilli jusqu'à 300 officiers, hein, donc c'était à l'époque assez important. Et ce qu'on observe également, c'est qu'à partir de la Restauration, on va peu à peu avoir une clarification des choses et un changement de tutelle pour les réfugiés. Alors, je vous ai parlé ici donc des Joséphins espagnols qui étaient encadrés par le ministère de la Guerre. Et ce qu'on observe, c'est qu'à la fin de la Restauration, il y a un changement de tutelle. Les réfugiés ne vont plus être encadrés par le ministère de la Guerre, mais par le ministère de l'Intérieur. Et à cet égard, hein, il y a une continuité hein, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours hein, ce qui prévaut. Hein, voilà. Donc à ce moment-là, pourquoi expliquer qu'en 1829, les Portugais, dont je vous ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, soient encadrés par le ministère de la Guerre, secourus sur le budget du ministère de la Guerre, et non plus sur le ministère de l'Intérieur, pardon, et non plus sur le budget du ministère de la Guerre? Comment essayer d'expliquer ce changement de tutelle administrative? Alors, mon hypothèse, c'est que, initialement, le dépôt de réfugiés était encore très proche hein, dans son fonctionnement, dans la façon dont l'administration le pensait, encore très très proche du dépôt de prisonniers de guerre. Hein. Et peu à peu, on voit effectivement que l'administration française commence à beaucoup mieux séparer, hein, dans ses circulaires, le réfugié et le prisonnier, ce qui n'allait pas forcément de soi initialement à la fin du Premier Empire et au début de la Restauration. Changement de tutelle administrative qui montre que, peu à peu, le statut de l'étranger réfugié, c'est le terme à l'époque, hein, on inverse, on parle d'étrangers réfugiés au début dans les sources, et non pas de réfugiés étrangers comme aujourd'hui. On voit que ce statut se différencie hein, et se clarifie aussi de plus en plus nettement. Distinction entre le réfugié et le prisonnier qui se fait encore plus évidente sous la monarchie de Juillet, à partir donc de 1830. Au cours des années 30, sous la monarchie de Juillet, donc la bienfaisance manifestée à l'égard des étrangers réfugiés, comme on les appelle, va se généraliser à l'ensemble des groupes d'étrangers qui ont trouvé asile en France. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, la monarchie de Juillet va donner des secours à des réfugiés libéraux, donc qui sont proches politiquement de ses idées, des idées qui ont permis à Louis-Philippe de prendre le pouvoir. Mais également, peu à peu, ce qu'on observe, c'est que la monarchie de Juillet donne aussi des secours à des ennemis politiques par excellence. Hein, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des carlistes espagnols, donc ces légitimistes contre-révolutionnaires, absolument opposés à tous les principes libéraux, vont recevoir eux aussi des secours de la monarchie de Juillet à partir de 1835. Hein. L'octroi de secours est une mesure qui recueille un large consensus dans la classe politique. C'est-à-dire que ça semble normal d'attribuer ces secours à ceux qu'on appelle les malheureux réfugiés, dans les textes parlementaires notamment. Assistance qui se justifie par la nécessité de secourir l'infortune temporaire que connaissent ces étrangers, et non pas par un soutien à la cause idéologique qu'ils incarnent. Il faut bien voir que cette bienfaisance, elle a un coût important pour les finances publiques, puisque on peut effectivement évaluer à environ 20 millions de francs le coût de ces secours attribués à des réfugiés dans la France des années 1830. Alors attention, il faut bien voir que si ça a un coût pour les finances publiques françaises, cette assistance aux réfugiés, elle a aussi un coût pour les réfugiés eux-mêmes. Je m'explique. Les réfugiés vont perdre en liberté de mouvement ce qu'ils gagnent en secours financiers. En effet, on va avoir sous la monarchie de Juillet la généralisation du principe d'assignation à résidence des réfugiés dans des dépôts de réfugiés, que l'on va établir prioritairement dans les départements, loin de Paris. En septembre 1831, la préfecture de police chasse les réfugiés de Paris au maximum. Donc tous ceux qui n'ont pas les moyens de rester à Paris sont envoyés vers des dépôts de réfugiés en province. Et donc ce principe va être de plus en plus formalisé à partir de la monarchie de Juillet. Formalisation qui va passer aussi par une localisation des dépôts loin des frontières. Là aussi, on retrouve des choses qu'on a un petit peu déjà dites, mais là, ça va de plus en plus être appliqué. C'est-à-dire qu'on va éviter absolument de fixer ces dépôts près des frontières ou près de la capitale. On va notamment chercher à les placer dans ce qu'on appelle les départements ou les villes de l'intérieur, un terme qu'on retrouve très fréquemment à l'époque dans les circulaires. Et en particulier, Poitiers redevient là encore une ville de dépôt de réfugiés. En mars 1832, Poitiers va notamment accueillir de nouveau. Alors je vous montre ici un contrôle des réfugiés espagnols à Poitiers, donc établi au printemps 1832. On sait qu'on a effectivement donc 214 officiers espagnols. C'était des dépôts aussi, si vous voulez, très spécifiques en fonction des grades ou des statuts des réfugiés. On mettait souvent pas les soldats et les officiers ensemble. Ou, par exemple, on mettait pas ensemble, s'il s'agissait aussi de membres de la société civile, on ne mettait pas ensemble, par exemple, des députés avec des propriétaires ou des avocats. Donc il y avait aussi une règle d'affectation dans les dépôts qui dépendait aussi du statut social et du grade militaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette généralisation de l'assignation à résidence dans les dépôts de réfugiés, elle s'effectue avant même l'adoption d'une première loi adoptée en France sur les étrangers réfugiés. C'est la loi du 21 avril 1832. Alors vous verrez que c'est une loi assez courte. Je vous ai ici reproduit l'intégralité du texte en trois articles. Loi assez courte, et vous constaterez en lisant ce texte ici projeté qu'à aucun moment, finalement, on ne définit ce qu'on entend par étrangers réfugiés. Ce qui pourrait à nous sembler aller de soi, effectivement, ici, on ne définit pas finalement la population concernée par cette législation nouvelle. En revanche, ce qui intéresse ici le législateur, c'est la question de la résidence, la question des conditions de résidence, qui est effectivement centrale dans le premier et le deuxième article. Résidence, donc, qui peut se faire effectivement dans ces dépôts, même si là aussi on ne retrouve pas le terme de dépôt de réfugiés, pourtant extrêmement fréquent dans les circulaires du ministère de l'Intérieur de l'époque, dans tous les textes des préfectures également concernées par l'accueil de réfugiés. Et cette législation donc s'intéresse avant tout à leurs conditions de résidence. Elle prévoit aussi des possibilités d'expulsion hors de France pour ceux qui ne respectent pas l'assignation à résidence. Alors, cette possibilité d'expulsion, elle n'est pas totalement nouvelle, puisqu'il y avait déjà une loi depuis le directoire qui concernait l'expulsion des étrangers. Mais on voit ici que la catégorie étrangers réfugiés focalise les craintes. Et pour cette raison, on va effectivement permettre au gouvernement d'adopter des mesures d'expulsion pour cette catégorie bien précise d'étrangers réfugiés qui peuvent donc être forcés de sortir du royaume. Vous voyez, c'est dans l'article 2. Là encore, on voit bien que le terme même d'expulsion n'apparaît pas dans le texte lui-même, alors même qu'à l'époque, il était employé de manière extrêmement régulière dans la pratique. Alors ce qui est intéressant, c'est que le réfugié donc, n'est pas défini ici par une loi. Il n'y a pas de définition juridique législative. En revanche, il y a une définition très pragmatique du réfugié qui se fait à travers essentiellement l'attribution des subsides au niveau des préfectures. On pourra en reparler. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe sous la Seconde République ? Seconde République, je vous avais dit effectivement que c'est un moment quand même très important dans ces migrations contraintes en Europe. Eh bien, au début, le gouvernement provisoire, mis en place après la révolution de février 1948, va d'abord décider d'assouplir les conditions de résidence. Dès le mois de mars 1948, on décide d'abolir toutes les interdictions qui pesaient sur les déplacements des réfugiés en France, qui les interdisaient notamment de s'installer à Paris s'ils le souhaitaient. Et donc, en mars 1948, on les libère de toutes ces obligations, on leur permet même de s'installer librement dans la capitale s'ils le souhaitent. Mais c'est un adoucissement des conditions de vie qui est extrêmement éphémère, puisque la République va évoluer très rapidement, dès la fin du printemps, dans un sens conservateur, et on va assez brusquement remettre en vigueur les lois héritées de la monarchie de Juillet. Et ce qu'on observe également, c'est que alors même qu'on avait vu qu'il y avait une augmentation du nombre de demandes de secours de la part d'exilés politiques en France après 1948, eh bien, le nombre de ces secours effectivement accordés baisse drastiquement. Vous le voyez à travers ce graphique, puisqu'on voit effectivement que le nombre de réfugiés secourus pour des motifs politiques se réduit énormément. On passe de 4200 en 1849... à seulement 1730 en 1852. Donc voilà pour ce qui est de la question de l'accueil et des politiques mises en place pour accueillir, des dispositifs d'accueil mis en place pour accueillir ces exilés et ces réfugiés. Alors maintenant, j'aimerais parler également de leur devenir socio-professionnel en France. Une partie donc, que j'ai intitulée « Des individus ne tenant au sol ni par les liens de la patrie, ni par les liens de la famille », qui est ici une citation du comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il s'exprime à la Chambre des députés, en 1836. Et d'emblée, vous voyez effectivement les soupçons qui pèsent à l'égard de ce devenir social de réfugiés accueillis très nombreux en France. Dans ce discours de 1836, effectivement, le comte de Montalivet regrettait la présence de réfugiés ne tenant au sol français par aucun lien, ni patriotique ou politique, ni familial ou économique. Et à la lumière de ce jugement sévère, on peut essayer d'interroger le devenir de ces réfugiés, sachant qu'on a beaucoup plus d'éléments sur les réfugiés secourus, ceux qui ont laissé beaucoup plus de traces dans les sources dont on dispose, tandis que effectivement toute la population des exilés non secourus parfois nous échappe, et on peut parfois bien sûr les retrouver à travers des sources plus personnelles, mais qui sont bien évidemment beaucoup moins importantes que les sources administratives, policières, sur les réfugiés secourus. Alors, quel devenir familial, tout d'abord ? Quel devenir familial ? Eh bien, Montalivet disait que les réfugiés accueillis ne tenaient pas par les liens de la famille en France. Et c'est d'abord parce qu'il s'agissait d'une manière générale d'une population d'hommes jeunes, célibataires, ou du moins arriver en France sans être forcément suivis de leurs épouses et de leurs enfants qui pouvaient aussi rester au pays. En effet, on observe un taux de masculinité très important dans cette population. Là encore, hein, je précise bien, je le précise à chaque fois, hein, mais ce sont uniquement les réfugiés secourus dont je parle, hein, ceux qui sont mis en lumière par les statistiques de l'époque. Et on voit à travers les statistiques dont on dispose, du moins celles qui incluent les hommes, les femmes et les enfants, ce n'est pas toujours le cas, hein, parfois elles sont complètement hors champ, hein, même s'ils existent. Effectivement, on voit qu'on a toujours environ 10% d'hommes, hein, dans ces groupes de réfugiés secourus. 10% donc en 1831. Hein, et cela tient aussi au fait que beaucoup de ces réfugiés secourus étaient des militaires, hein, venus de manière générale avec une écrasante majorité d'hommes jeunes. Pourtant, ce fort taux de masculinité n'empêchait pas les exilés et réfugiés accueillis en France d'être investis dans des relations familiales, par exemple dans des relations familiales à distance que l'on peut observer à travers les correspondances, à travers les lettres. Et cela ne les empêche pas non plus de s'engager dans de nouvelles relations familiales depuis la France, notamment à travers les mariages mixtes, union entre réfugiés et femmes françaises, qui ne sont pas sans susciter des inquiétudes là aussi, en particulier dans le groupe des Polonais accueillis en France dans les années 1830. Beaucoup d'inquiétudes parce qu'on a peur, du côté des Polonais, qu'en épousant des femmes françaises, qui vont donner donc naissance à des enfants élevés par des mères francophones, il y ait une rupture avec la langue, avec la pratique aussi de la religion catholique, hein, d'origine. Et c'est pour cela notamment que la grande émigration polonaise va beaucoup s'intéresser à la question de ces mariages mixtes, va beaucoup s'intéresser aussi à la question de l'éducation des réfugiés et des enfants de réfugiés, en fondant notamment une grande école polonaise, l'école polonaise des Batignolles, hein, qui est fondée en 1841, donc près de Paris à l'époque, et une institution qui est particulièrement pensée pour accueillir les enfants orphelins, donc les enfants de réfugiés qui n'ont plus leurs parents pour subvenir à leurs besoins, mais également et surtout les enfants issus de mariages mixtes entre des Polonais et des Françaises. Autant que ces liens familiaux tissés en exil, ce sont les trajectoires sociales des réfugiés qui méritent d'être éclairées. Alors, on a souvent eu une vision un petit peu enjolivée des choses, hein, sur leur devenir socio-professionnel. On a souvent opposé les exilés héroïques, glorieux du XIXe siècle qui se seraient insérés sans mal sur le marché du travail français, tandis que les réfugiés du XXe et du XXIe auraient eu beaucoup plus de difficultés. En fait, si on regarde d'un peu plus près, on voit que les étrangers, à l'époque, cumulaient malgré tout beaucoup de handicaps pour s'insérer sur ce marché du travail. Difficultés linguistiques, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout le monde ne parlait pas français dans l'Europe du XIXe siècle. Par ailleurs, difficultés linguistiques, mais également les conditions de résidence dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment l'assignation à résidence, n'étaient absolument pas favorables à l'insertion, hein, sur le marché du travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les réfugiés avaient conscience, hein, de ces grandes difficultés qui s'opposaient à eux pour leur recherche d'emploi. On le voit notamment à travers les pétitions. Là aussi, c'est une des grandes sources, hein, importantes pour connaître leur devenir en France. Pétition de réfugiés carlistes, ici, que j'ai reproduite, réfugiés du dépôt d'Orléans en 1841, qui s'adressent à la Chambre des Pairs et qui disent que toutes les carrières sont encombrées, que pour une place, il y a 1000 rivaux, soutenus chacun par 10 000 recommandations. D'ailleurs, ne préférera-t-on pas toujours les nationaux aux étrangers ? Donc, question posée ici dès 1841 par ces réfugiés espagnols carlistes. Alors, effectivement, plusieurs barrières qui s'opposaient à eux, hein, la barrière linguistique, qui était importante, hein, je reviens là-dessus. Barrière linguistique qui se manifeste là aussi dans les sources policières. Là aussi, par exemple, on a des témoignages sur le dépôt de Châteauroux, un dépôt qui a accueilli environ 300 réfugiés en 1833. Et on sait qu'en 1833, une bagarre éclate entre les réfugiés. Bagarre qui éclate entre les réfugiés, qui sont essentiellement à l'époque des Polonais, hein, dans ce dépôt. On envoie des forces de police pour calmer le jeu, et en fait, les forces de police disent qu'elles n'arrivent pas à se faire entendre par les Polonais qui sont pris dans ces rixes, dans ces bagarres, et on voit qu'il y a une véritable barrière linguistique qui se matérialise, en particulier avec les Polonais qui ne viennent pas forcément tous de la noblesse lettrée. Et d'ailleurs, si on reste toujours du côté des Polonais, ceux-ci ont aussi cherché à créer des associations d'entraide pour l'enseignement du français, ceux qui étaient installés depuis plus longtemps, aidant les arrivants à apprendre le français. En particulier, on sait qu'il y a eu une école de ce type à Besançon, donc une sorte d'école autogérée par des réfugiés qui s'apprenaient entre eux le français. Obstacle de la langue, qui était donc un obstacle important, conjugué effectivement à la politique d'assignation à résidence. Politique d'assignation à résidence qui envoyait, je vous l'ai dit, les réfugiés vers ces villes de l'intérieur, parfois des petites et moyennes villes de province, où effectivement on n'attendait pas forcément les étrangers qui auraient eu plus de facilité, bien évidemment, à trouver un emploi dans la capitale, où les réseaux d'entraide étaient bien plus développés. Et c'est d'ailleurs des plaintes qu'ont relayées les membres de la gauche et de l'extrême gauche française. En 1833, par exemple, Garnier Pagès s'exprime à la Chambre des députés et va demander au gouvernement, je cite, de cesser de renfermer les réfugiés dans certaines villes où ils ne peuvent exercer aucune industrie parce qu'ils s'y trouvent réunis en masse. Il y a aussi effectivement cette dimension, le fait de se trouver regroupé entre ces différents, dans ces différents dépôts où on a d'un coup une concentration d'hommes jeunes ne parlant pas forcément la langue française et devant essayer de chercher un emploi, ça n'est pas non plus favorable à cette recherche-là. Et enfin, il y a aussi une dernière dimension qu'on peut souligner, c'est aussi les phénomènes de xénophobie. Même si le terme, à l'époque, n'existe pas encore, c'est une invention malheureuse, ce terme-là de xénophobie du début du XXe siècle. Mais la réalité existe déjà. On voit effectivement des épisodes où l'étranger est rejeté parce qu'il est étranger. Notamment au cours des années 1846-1848, qui correspondent à une période de crise économique importante. Et on a effectivement à cette époque des traces de pétitions envoyées par des Français qui protestent contre le fait qu'on donne de l'argent à des réfugiés pour vivre en France, sans forcément avoir la nécessité de travailler, alors même que les Français, sont dans la misère, font l'expérience du chômage, etc. Et en particulier, une pétition de 1847 écrite à Lyon par un écrivain public qui se plaint de l'arrivée massive en France de réfugiés piémontais, savoyards, espagnols, polonais, tyroliens, allemands de toute province, prussiens, autrichiens, à qui on donne de l'argent alors que, je cite, « le français est dépourvu de travail et de nourriture ». Vous voyez déjà effectivement que, même si le terme de xénophobie n'existe pas, on a malgré tout des épisodes xénophobes dès cette époque à l'encontre des réfugiés. Alors, ces réfugiés, on a aussi des enquêtes parlementaires qui portent sur leur devenir socio-professionnel. Alors je passerai un petit peu rapidement pour tenir le temps qui m'est imparti. Mais ces enquêtes qui portent sur les réfugiés secourus montrent qu'en fait, une grande majorité des réfugiés secourus ne se sont pas contentés de vivre dans l'oisiveté, mais au contraire, ont cherché à trouver un emploi. Et on voit ici, à travers cette enquête de 1837, toute la diversité des métiers qu'ils vont rechercher en France. Alors là, ce sont les catégories de l'époque, arts et métiers, employés, étudiants. Et là aussi, il y a eu de très nombreux réfugiés étudiants, je le dis pour aussi réinscrire dans le contexte local, de très nombreux réfugiés étudiants dans les facultés de médecine et de droit à Poitiers, qui ont eu un rôle important. Professeurs également, et parmi ces professeurs, beaucoup vont enseigner leur propre langue, devenir maîtres de langue, et bien évidemment également, vous voyez, une grosse proportion qui sont journaliers domestiques, sachant que l'exil est aussi très souvent une expérience de déclassement socio-professionnel pour ces réfugiés qui venaient globalement des élites, même si bien sûr on peut quand même affiner les choses selon les groupes et selon les époques. Alors voilà pour ce qui est des trajectoires sociales. J'aimerais, dans les petites minutes qui me restent, parler de l'engagement politique dans ma troisième et dernière partie. Donc je vous ai beaucoup parlé ici des réfugiés. Le réfugié, donc on l'a vu, c'est la catégorie qui a que l'administration française a peu à peu construite, hein, pragmatiquement. Hein, avant même l'adoption de la première loi sur les réfugiés, on voit déjà l'emploi de ce terme. Mais ici, on va revenir à une autre catégorie, la catégorie de l'exilé, hein, puisque c'est une catégorie beaucoup plus subjective. Hein, on se dit exilé, on se dit en exil. Et on se dit en exil, notamment lorsque l'on continue, lorsqu'on souhaite continuer le combat politique qui est à l'origine même de la migration. Alors pour évoquer ces politiques d'exil, ces façons de faire de la politique en exil à l'époque, je repartirai d'une typologie forgée par le politiste Stéphane Dufoy, qui s'est intéressé donc, dans un livre aux Hongrois, Polonais et Tchécoslovaques en France après 1945 selon une approche politique. Et il parle de quatre invariants de ces politiques d'exil. Représenter le groupe des exilés, organiser le combat, informer, mais également combattre, poursuivre le combat par différents moyens. Et effectivement, on peut saisir ici toute la diversité des engagements politiques d'exil qui ont été ceux des étrangers accueillis en France au cours de la première moitié du siècle. Alors le premier moyen évident de faire de la politique à l'époque, c'est pas forcément celui auquel on penserait nous spontanément, mais c'est essentiellement par les sociabilités informelles que l'on pouvait faire de la politique lorsqu'on était un étranger en France, et y compris lorsqu'on était aussi un Français, hein, puisque, effectivement, sous les monarchies censitaires, l'engagement politique est très strictement encadré, limité, en particulier parce qu'il n'y a pas de droit d'association. Premier moyen de faire de la politique d'exil, eh bien, c'est le moyen qui se présente notamment aux élites, hein, celui de traverser les salons ouverts à ces étrangers. Deux salons se distinguent dans cette fonction d'accueil auprès des exilés politiques. Sous la Restauration, le salon du baron Gérard, qui va accueillir essentiellement des Italiens, mais pas seulement. Puis au début de la monarchie de Juillet, c'est le salon du général de Lafayette qui devient une sorte de plateforme politique pour les réfugiés libéraux, qu'ils soient espagnols, allemands, polonais. Hein, c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on veut continuer à exister dans cette nébuleuse libérale en exil à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce salon, vous avez notamment beaucoup d'exilés italiens qui sont présents, notamment une princesse lombarde, dont je n'ai pas écrit le nom, j'aurais dû, qui s'appelle la princesse Belgioioso, et qui fréquente le salon de Lafayette. Et après la mort de Lafayette en 1834, elle va elle-même ouvrir un salon à Paris qui ouvre ses portes très largement aux exilés politiques à partir de 1835. Donc on voit aussi qu'il y a une sorte de transmission des savoir-faire salonniers qui s'effectue en particulier à travers le salon de Lafayette. Alors, tous n'avaient pas néanmoins accès à ce salon, d'abord parce que les exilés politiques admis à Paris étaient quand même très réduits en nombre, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un autre moyen de faire de la politique en exil, c'était aussi tout simplement de fréquenter les cafés. Fréquenter les cafés. Alors à Paris, c'était essentiellement au Palais Royal qu'on se retrouvait. Et en province également, on voit que dans certaines grandes villes d'accueil, dans les villes de passage, ce sont les cafés qui jouent cette fonction d'accueil des exilés politiques étrangers. Les cafés qui pouvaient aussi accueillir parfois, cafés et aussi salles de spectacle, salles de réunion, qui pouvaient aussi accueillir parfois des banquets. Le banquet politique était à l'époque effectivement un moyen par excellence de faire de la politique. Les banquets qui ont été étudiés récemment, enfin, dans un livre de 2010 hein, de Vincent Robert, un livre qui a été primé au rendez-vous de l'histoire de Blois, qui a reconstruit toute l'histoire de ces banquets au cours du premier 19e siècle. Les banquets qui étaient un moyen de faire de la politique à travers une sociabilité festive, hein, éminemment festive. On s'organisait autour d'un repas avec des souscripteurs qui apportaient donc une somme pour permettre l'organisation pratique de ce repas. Et lors de ce repas, on portait des toasts qui pouvaient très souvent aussi être portés en faveur de l'accueil de ces exilés politiques. Et on a de nombreux témoignages sur les banquets libéraux des années 30 qui permettaient précisément d'offrir symboliquement un accueil favorable aux exilés libéraux, en particulier aux Polonais. Et ce qui est intéressant également, c'est que certains banquets vont se spécialiser vraiment dans l'accueil de réfugiés. 1833, par exemple, on a un banquet donné à Châtellerault qui va s'intituler lui-même « banquet hein, au profit des réfugiés », donc en l'occurrence polonais et espagnol, ce qui montre aussi tout l'intérêt de décloisonner l'exil selon une approche transnationale et non pas par communauté nationale, puisqu'on voit bien que ces communautés-là, eh bien, elles dialoguaient entre elles et elles se rencontraient à travers ces moments de festivité. Alors, il y avait aussi un autre moyen de faire de la politique qui nous semblerait à nous plus évident, peut-être, c'est l'engagement associatif à travers des associations d'exil qui fonctionnaient dans la clandestinité, associations d'exil qui utilisaient là aussi des moyens parfois très similaires. Alors, je parle ici de trois associations d'exil fondées en France dans les années 1830. La Jeune Italie, la Giovine Italia, créée à Marseille par Mazzini en 1831. La Société démocratique polonaise, fondée à Paris en 1832. Et enfin, la Ligue des Justes, association allemande, hein, je traduis ici, qui voit le jour dans la capitale en 1836. Pourquoi essayer de comparer ces engagements associatifs ? Eh bien parce que ces associations ont les mêmes buts, d'abord incarner hein, le groupe national en exil, le rassembler, le représenter. On revient aux invariants de la politique d'exil dégagée par Stéphane Dufoy. Par ailleurs, il y a aussi une dimension générationnelle. Il s'agit de représenter la nouvelle génération de patriotes, et en particulier la Jeune Italie, hein, par exemple, dans ses statuts, elle prévoit explicitement que c'est une association ouverte aux moins de 40 ans. Hein, c'est très sélectif, hein, l'idée c'est de représenter la nouvelle génération, hein, la Jeune Italie, le terme même, bien sûr, employé en témoigne. Autre dimension comparable dans ces associations, eh bien, c'est qu'on va recourir aussi à l'écrit. En particulier, la Société démocratique polonaise va faire paraître des manifestes dans la presse polonaise alors publiée en France. Recours à l'écrit et volonté de se démarquer aussi des sociétés secrètes des années 1820, même si en fait, dans la pratique, bien sûr, ces associations clandestines vont beaucoup emprunter à ces sociétés secrètes des années 20, en particulier au modèle de la charbonnerie. Alors, bien évidemment, ce n'est pas limité aux années 30, mais il y a quand même un moment ici qu'on peut identifier, hein, où effectivement on voit plusieurs groupes nationaux recourir aux mêmes moyens, à la fois l'association, le recours à l'écrit pour mobiliser les membres, mais également pour faire appel parfois à la société française, et c'est le cas notamment de la Société démocratique polonaise qui va essayer de tisser des liens très forts avec les Français. Je précise également que cette société va avoir son siège fixé à Poitiers, hein, qui est vraiment un centre d'accueil très important pour la grande immigration polonaise. Oui, je sais, spontanément, on n'y penserait pas, hein, mais effectivement, Poitiers est une ville d'accueil très importante pour les réfugiés au XIXe siècle. À Poitiers, et donc, qui va effectivement accueillir le siège de cette société secrète, ce qu'on appelle la centralisation de la Société démocratique polonaise. Et des imprimeurs poitevins donc, vont imprimer des manifestes, des organes de presse en polonais, et vont aussi être en butte à des formes de répression de la part de la police française. Enfin, il y a un dernier moyen de faire de la politique en exil, un moyen plus radical, celui qui consiste à prendre les armes. Et là-dessus, je terminerai. Prendre les armes, effectivement, on voit que des exilés politiques vont défendre leurs idées en prenant les armes au cours des insurrections et révolutions françaises du 1er 19e siècle. En particulier, là aussi, un moment important, les Trois Glorieuses, la révolution de juillet 1830, qui est une révolution très cosmopolite, hein, selon par exemple le témoignage qu'en a laissé un exilé allemand, Ludwig Böhm. Il écrit effectivement dans ses lettres écrites de Paris, qu'il publie en 1832, il écrit « Anglais, habitants des Pays-Bas, Espagnols, Portugais, Indiens, Polonais, Grecs, Américains ont combattu pour la liberté des Français, qui certes est la liberté de tous les peuples. » Cet engagement au profit de la liberté française, conçu comme une liberté pouvant bénéficier à tous les peuples, hein, se lie aussi en 1848, lors de la révolution de février 1848, qui mène donc à l'adoption, à la mise en place du gouvernement provisoire. Et là aussi, on peut retrouver, alors de manière plus discrète cette fois-ci, des itinéraires de réfugiés qui ont aussi pris les armes aux côtés des Français en février 48. Alors, il faut bien voir effectivement que la lune de miel entre les réfugiés étrangers accueillis en France et la Seconde République française, instaurée par cette révolution de février 48, a été de courte durée, hein, je vous l'avais dit. Très rapidement, les réfugiés vont faire l'objet de nouvelles restrictions importantes. Puis, il faut bien voir également que le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1851, va profondément changer la donne. Profondément changer la donne parce que désormais, la France va devenir davantage une terre de proscription, une terre d'émigration politique, hein, pour les proscrits républicains français qui vont devoir s'installer à l'étranger, s'expatrier. Et donc, elle passe vraiment à ce moment-là du statut de terre d'asile à celui de terre d'exil. Hein. L'administration du nouveau régime refusant même d'employer le terme de réfugié. Hein, elle va seulement les qualifier d'émigrés pour refuser effectivement une dénomination trop politique. Modification très importante qui fait effectivement que je préfère ici m'arrêter à cette période-là. Période qui, je le crois, montre quand même la fécondité de cet accueil des exilés politiques étrangers en France. Alors je vous l'ai bien dit, c'est pas à ce moment-là que la France devient une terre d'asile. Elle l'a déjà été sous la monarchie absolutiste. Elle l'a été aussi, bien sûr, sous la Révolution française. En revanche, j'espère avoir montré que c'est une période cruciale du point de vue de la diversité des origines représentées parmi les exilés, du point de vue des catégories, des dispositifs spécialement forgés pour ces étrangers d'un genre particulier. Alors reste maintenant à souligner que l'histoire de cette France terre d'accueil qui s'est écrite au cours de ce XIXe siècle n'est pas sans écho aujourd'hui, même si on ne peut que remarquer le caractère assez vague de ce passé de terre d'asile que l'on invoque très souvent au titre des traditions politiques françaises. On peut dire que la France n'a jamais été autant prise au piège, finalement, de ses contradictions entre une image de terre d'asile universaliste, héritée de la Révolution, et une application du droit d'asile, ou plutôt faudrait-il dire aujourd'hui des droits d'asile, tant c'est stratifié, qui est loin de correspondre à cet idéal. Dès la première moitié du XIXe siècle, depuis les pétitions envoyées aux préfectures par les simples réfugiés, jusqu'aux grands discours parlementaires de certains députés de gauche et d'extrême gauche, on voit effectivement qu'on a un écart parfois très grand entre l'idéal et la pratique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.
Merci.
Oui, merci Delphine Diaz pour ce vibrant exposé absolument passionnant qui tire des liens multiples vers, effectivement, comme vous l'avez dit dès le départ, l'actualité, le monde d'aujourd'hui. Merci pour cette approche transversale aussi de l'asile et des exilés et de leurs pratiques. Je pense que ça, c'est porteur d'une méthodologie très riche pour les étudiants qui vous ont écouté. Et merci encore d'avoir incarné votre propos à travers des exemples poitevins. D'avoir une matière à disposition et vous avez pris le temps de rechercher dans vos propres dossiers. Donc, merci beaucoup. Voilà, beaucoup de questions. En ce qui me concerne, je m'interrogeais notamment sur le socle idéologique et par-delà, justement, les pratiques administratives qui en elles-mêmes sont extrêmement passionnantes, mais il y a quand même quelque chose qui m'interroge, c'est la dette que ces régimes successifs se sentaient tenus d'honorer vis-à-vis des réfugiés et de ce devoir d'accueil. Et je me suis demandé pourquoi, en fait, tout simplement, pourquoi c'est, quand vous parlez de la restauration, qui malgré tout honore cette dette, et voilà quelle.
Alors oui, c'est une question très importante. En fait, ce n'était pas une question non plus très tranchée à l'époque, en réalité. Parce que sous la Restauration, effectivement, on va décider de poursuivre notamment donc, l'attribution de secours aux réfugiés joséphins espagnols, donc, qui sont, comme je vous l'avais dit, plutôt des adversaires politiques, en particulier après les 100 jours. Ils sont effectivement très mal vus en France. Mais on décide effectivement, alors sur le motif là aussi d'une solidarité chrétienne, hein, il y a aussi la dimension religieuse qui est beaucoup invoquée, hein, l'idée d'une bienfaisance à l'égard de personnes qui ont tout perdu, hein, qui va permettre de justifier cet accueil. Mais en revanche, votre question est importante parce qu'elle me permet de mettre en valeur le fait que ça n'était pas du tout encore tout à fait tranché, en particulier parce qu'on voit que sur la question de l'accueil des exilés espagnols, alors ça a été bien montré par plusieurs historiens spécialistes, hein, très précisément de ce moment-là, hein, notamment Gérard Dufour, qui a montré qu'au cours de l'année 1817, on a un débat à la Chambre des députés et à la Chambre des pairs au sujet précisément de cet accueil, puisqu'on va avoir donc un homme politique important de l'époque qui va s'opposer à la poursuite des secours en disant, en prononçant un discours resté mémorable, qui dit effectivement, mais finalement, pourquoi on continue en quelque sorte de gâcher de l'argent pour ces gens qui sont nos ennemis? Et effectivement, on a toute une justification qui va en retour se construire, en particulier par le discours effectivement de la charité chrétienne à l'égard d'infortunés. On va les considérer plus effectivement comme des gens qui ont perdu, qui ont tout perdu, qui ne peuvent plus rentrer chez eux. Hein, faut attendre en fait 1820 pour qu'il y ait une amnistie qui leur permette de revenir en Espagne, plutôt que comme des ennemis politiques, même si en fait à l'époque ça pouvait faire l'objet de contestations. Donc c'était pas arrêté. Ouais. En fait.
Mais c'est vrai que c'est des socles de discussion que je trouvais extrêmement passionnant. Moi j'avais aussi cette fois du côté des exilés. Je me suis demandé quelle portée ont eu les combats qu'ils ont menés, qu'ils ont poursuivis en France, sur le pays d'origine ou dans le pays d'origine. Est-ce qu'il y avait des liens avec les groupes politiques restés sur place et qui combattaient le plus souvent dans la clandestinité? Mais comment ces mondes-là étaient
Je vais illustrer peut-être cela à travers deux exemples, un exemple italien, un exemple polonais. Du côté italien, par exemple, si on s'attarde sur l'action menée par Mazzini à partir de 1831 à la tête donc de la jeune Italie, on voit effectivement qu'il y a des liens très importants qui se maintiennent avec les patriotes, notamment piémontais, mais pas seulement dans la péninsule. Et alors là, c'est très étudié du côté italien, notamment Salvo Mastellone qui a travaillé beaucoup là-dessus, hein, et on le retrouve à travers les sources policières françaises également. On a des témoignages très importants sur la circulation d'imprimés, notamment parce que la jeune Italie avait un organe de presse imprimé clandestinement depuis la France, qui faisait circuler. Là aussi clandestinement, donc parfois on sait que ça voyageait à travers des malles avec des poches cachées, etc. Enfin, il y avait tout des stratagèmes utilisés pour véhiculer du côté de la péninsule italienne des écrits politiques pourtant imprimés depuis la France. Donc on sait qu'il y a des contacts très importants. On utilisait donc bien sûr la circulation de l'écrit, on utilisait aussi les circulations notamment de marchands, de négociants qui pouvaient plus habilement se faire passer comme des gens qui voyageaient uniquement pour des raisons professionnelles et non politiques. On utilisait aussi les femmes beaucoup, puisqu'elles étaient moins susceptibles d'être soupçonnées d'engagement politique. Donc très souvent, les exilés allaient envoyer leurs femmes retourner en Italie pour éventuellement transférer de l'argent, transférer des écrits politiques, transférer de la correspondance, etc. Du côté polonais également, on observe de même liens très importants qui sont tissés avec le groupe d'origine. Groupe d'origine et non pas pays d'origine, puisqu'il n'y a pas de Pologne à l'époque, elle est effectivement désunie. On observe également que, par exemple, l'action politique menée par la société démocratique polonaise va avoir un impact très important pour l'avenir de la patrie polonaise, en particulier parce que cette société démocratique polonaise va former des gens et va les envoyer, en particulier en 1846. On a des révolutionnaires qui vont être en fait d'anciens réfugiés installés en France, qui sont missionnés par la société démocratique polonaise pour aller déclencher une révolution à Cracovie en 1846. Et en fait, la révolution de Cracovie, c'est vraiment, si vous voulez, le produit de toute l'action menée par la société démocratique polonaise depuis 1832. Donc en fait, elle ne peut pas s'expliquer déconnectée du contexte de l'accueil en France, en réalité.
Et à Poitiers. Pratiquement.
Et à Poitiers.
Okay. Bon, moi, je pourrais continuer, mais du coup, je passe.
Je suis pas sûre que vous n'ayez pas des fait, j'ai noté, mais je ne sais pas si vous en avez parlé. Vous avez parlé des expulsions autorisées par la petite loi de 32. Est-ce qu'on sait quelque chose sur cette politique? Est-ce qu'il y a eu des moments où il y en a eu beaucoup et comment?
Alors c'est une question vraiment très importante et j'en ai parlé vraiment très rapidement, donc ne vous inquiétez pas. mais justement, en fait, c'est une question sur laquelle on travaille dans le cadre du programme évoqué tout à l'heure par ma collègue donc sur Asile Europe 19, puisque on sait des choses bien sûr sur la législation concernant l'expulsion, mais en fait il y a très peu de recherches, quasiment pas en réalité, sur la pratique et sur l'application de l'expulsion. Et c'est pour ça qu'on est en train, précisément en ce moment, de faire un travail de base de données à partir de plusieurs dépôts d'archives en France, d'archives départementales, parce que c'est ça qui est le plus riche pour ma période. Les archives nationales sont très lacunaires du point de vue de la police à l'époque, parce qu'elles ont été en partie détruites. Et donc, en fait, on mène précisément en ce moment une recherche quantitative sur les expulsions et sur les applications des expulsions à l'encontre d'étrangers en France au cours des années 1830-1870. Donc pour l'instant, c'est un travail en cours, donc je ne peux pas encore trop donner de résultats quantitativement très précis. En revanche, ce que je peux vous dire à travers ce que moi j'ai vu dans mes propres recherches, qui sont d'un point de vue encore quantitatif pas assez arrêté, mais il y a des moments forts effectivement de ces expulsions. Expulsion qu'on va totalement minorer dans les discours parlementaires du côté du juste milieu sous la monarchie de Juillet. Systématiquement, les partisans du régime vont minorer ces expulsions, dire qu'elles n'ont qu'une incidence de 4 à 5 pour 1000 réfugiés en France, ce qui ressort effectivement des statistiques dont on dispose au niveau national en tout cas. Mais on voit effectivement que les expulsions donc, sont plus importantes entre 1832 et 1833. En particulier, Mazzini donc, va faire l'objet d'une expulsion. C'est pour ça qu'il s'installe en Suisse, pour la suite de son parcours qui continue ensuite vers Londres, puisque ces exilés circulaient. Là, j'ai parlé de l'étape en France, mais en fait, c'est une étape parmi d'autres pour eux, à l'époque, dans un parcours souvent au long cours. Mazzini, donc, par exemple, est expulsé en 1831. On peut prendre aussi l'exemple de plusieurs grands noms de l'immigration polonaise, comme Joachim Lelével, qui est expulsé vers la Belgique en 1833, alors même qu'il était hébergé par Lafayette dans sa résidence d'été à La Grange. Donc on est allé le chercher dans cette résidence pour l'expulser hors de France. Et un autre temps fort de l'expulsion des étrangers pour motifs politiques, c'est l'année 1849. Année 1849, puisque là, on a des expulsions collectives, et là, on dispose de listes collectives, en particulier dans les archives diplomatiques, donc archives diplomatiques, qui renferment ces listes d'expulsés, donc, qui sont en général donc, des démocrates, expulsés par une république, toute la contradiction est là, et qui sont expulsés majoritairement cette fois-ci vers l'Angleterre, vers la Grande-Bretagne, puisqu'en fait, à l'époque, c'était le seul pays qui ouvrait les portes à tout le monde. On n'avait pas besoin de présenter de passeport en arrivant en Grande-Bretagne. C'était le seul pays qui, véritablement, n'expulsait pas, ne contrôlait pas aux frontières et n'expulsait pas. Et là aussi, alors j'en ai pas parlé parce que ça rentrait pas non plus trop dans le cadre de cette conférence, mais là aussi, on peut mieux comprendre finalement aussi l'image de terre d'asile à la Grande-Bretagne aujourd'hui, et finalement d'idéal qu'elle peut constituer dans les représentations encore actuelles. Donc effectivement, deux temps forts, en tout cas pour la période que j'ai étudiée, 1832-33, un moment aussi donc, où les réfugiés sont vraiment sous le coup de cette répression administrative et policière, et l'année 49, qui sont des temps forts de ce point de vue.
Bonsoir. J'avais une question en fait qui concerne plutôt je dirais pas le mode d'évaluation, mais on voit qu'il y a beaucoup, enfin il y a eu quand même pas mal de demandes de secours. Comment est-ce que l'administration a organisé en fait l'attribution des subsides et quels étaient les critères un petit peu qui étaient retenus, parce qu'on voit que c'est une définition assez floue finalement du réfugié, de l'exil étranger. Finalement.
Oui, alors merci de cette question, parce que je suis passée un petit peu vite tout à l'heure, justement, sur ce passage pour tenir les temps. Alors effectivement, c'est une définition très pragmatique qui va se faire essentiellement à l'échelon de la préfecture, puisque dans chaque préfecture de département, on va avoir à partir d'une instruction de 1833, donc juste un an après la loi dont j'ai parlé tout à l'heure, on va avoir ce qu'on appelle des commissions de révision des titres de réfugiés, commissions des titres de révision des titres de réfugiés qui vont se charger, en quelque sorte, c'est un petit peu le discours hein, ambiant, hein, de séparer le bon grain de l'ivraie, de séparer les vrais réfugiés des faux réfugiés, hein, ceux qui auraient en fait menti sur leur identité, sur leurs ambitions en France, etc. Et à l'échelon donc, de ces commissions, on va réunir à la fois des représentants de l'administration, des représentants de l'armée, en particulier pour évaluer les militaires, et on va avoir un système de témoignages, en particulier, on va avoir un système de témoignages oraux, hein, pour les réfugiés qui, donc, entre guillemets, poseraient problème, dont on ne serait pas vraiment sûr de l'identité de réfugiés politiques. Et très souvent, donc, des réfugiés vont être amenés à témoigner en faveur de leurs compatriotes, hein, pour dire « mais lui, il est venu avec nous, on l'a vu dans le convoi qui partait, par exemple, pour les Polonais de Varsovie jusqu'à la Prusse, jusqu'à la France ». Donc il y a aussi un rôle important de la preuve orale, puisque très souvent, ces gens n'arrivaient pas à réunir de preuves écrites hein, sur leur départ, hein, donc qui effectivement est essentiel. Alors, commission donc, de révision des titres au niveau du département, et qui était chapeautée par un comité national de révision des titres à Paris, qui dépendait du ministère de l'Intérieur, et qui là aussi se chargeait de centraliser toutes ces demandes et de valider ou non la reconnaissance du titre de réfugié faite pour telle ou telle personne. Voilà. Alors, ça, c'est dans l'idéal. Hein. Après, dans la pratique, très souvent, ça allait plus vite. Ça dépendait des dépôts de réfugiés, du niveau d'organisation des préfectures. Donc là aussi, on observe... c'est toujours intéressant de voir les décalages entre le droit et la pratique. Et effectivement, on voit dans certains départements qu'on est complètement dépassé, débordé. Hein. Je pense par exemple au département de la Saône-et-Loire qui va accueillir 700 Italiens d'un coup en 1832. Alors là, pour le coup, on n'aura pas le temps systématiquement de faire l'organisation de ces témoignages pour reconnaissance de titres de réfugiés. Et les choses vont se faire de manière beaucoup plus automatique, on pourrait dire.
Je voulais vous demander si ces réfugiés qui sont passés par la Bretagne en 1929, ces Portugais, ils sont restés ?
Alors, les Portugais arrivés en 1829, ils ont en fait, en grande partie, ils ont essayé à un moment de partir en Belgique, à Ostende, pour participer à une nouvelle expédition contre le régime alors en place. Alors, je ne peux pas vous dire de manière exacte si un grand nombre sont restés. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'ils ont suscité en Bretagne une réaction d'enthousiasme à l'époque, très importante, puisqu'il y a eu des représentations théâtrales auxquelles ils ont été invités à participer, en particulier à Brest. Donc on a la trace notamment de chansons hein, faites pour accueillir les réfugiés portugais, donc des libéraux qui ont été particulièrement salués par l'opposition à la Restauration dans cette ville de Brest en particulier, ce qui était là aussi très mal vu par le pouvoir, hein, parce qu'on se méfiait beaucoup effectivement des moments de solidarité entre étrangers et français, notamment lorsqu'ils, voilà, en quelque sorte, ils étaient unis par cette même cause libérale.
J'ai une autre question qui concerne l'organisation des dépôts. Oui. Les villes ou les départements qui voyaient des arrivées d'exilés, est-ce qu'ils avaient le choix ou est-ce que c'était imposé au niveau central ?
Alors c'était en grande partie imposé au niveau central, ce qui était aussi parfois très mal vécu localement parce qu'on a parfois effectivement des protestations. Si vous voulez, c'est pas le plan de migrants qu'on a eu en septembre 2016, mais pas loin parfois malgré tout, hein, puisqu'effectivement on a quand même des protestations de certains maires qui disent « Attendez, moi j'ai une population de 3000 habitants et vous voulez m'imposer 400 étrangers chez moi. » Hein. Donc on retrouve en fait des éléments assez communs hein, finalement, effectivement, de protestation contre le pouvoir central, puisque les choix étaient faits à Paris. Alors les choix étaient faits, on le voit aussi à travers les rapports ministériels, notamment ministère de l'Intérieur, et souvent en dialogue avec le ministère de la Guerre. Hein, c'était les deux ministères vraiment privilégiés pour permettre au gouvernement de faire son choix sur certaines villes. Donc avec les impératifs hein, que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir être le plus loin possible des frontières et de Paris, donc très souvent au centre de la France, c'était en tout cas ce qu'on privilégiait. Hein. Parfois on n'y arrivait pas, mais c'était effectivement ce qui était privilégié. Et on privilégiait aussi les villes qui avaient déjà eu l'habitude d'accueillir des étrangers. On voit que cette dimension est importante dans les négociations qui se font entre les ministères, puisque très souvent on va se dire « Ah bah tiens, telle ville, elle a déjà eu l'occasion d'accueillir un dépôt de prisonniers ». En particulier, sous le Premier Empire, il y a eu énormément de dépôts de prisonniers étrangers en France. Et donc on se dit, là, on sait qu'il y a en quelque sorte une habitude des Français de cette ville qui ont déjà eu voilà, la coutume de recevoir des étrangers, qui ne seront pas trop surpris de cet accueil. Il y avait aussi une dimension économique et financière. On essayait, dans la mesure du possible, de choisir des villes où, bah, où le coût de la vie était le moins cher possible, même si parfois on n'arrivait pas à répondre à cet impératif-là. Mais on voit aussi que ce critère-là compte dans les négociations qui se font entre les ministères pour choisir certaines villes de dépôt. Mais effectivement, avec quelques protestations vraiment importantes dont on a la trace dans les sources, notamment les archives départementales, où on voit la trace des protestations des maires, mais également parfois des préfets qui refusent d'accueillir de nouveaux réfugiés dans leur département ou dans leur ville.
L'expertise supposée des lieux qui ont, et oui. Qui ont précédemment accueilli des prisonniers, donc qui pourraient accueillir maintenant des réfugiés. Le premier haut commissaire aux réfugiés, qui est donc créé en 1921, enfin institué en 1921 par la Société des Nations pour s'occuper des réfugiés russes, enfin des réfugiés de l'après-Première Guerre mondiale, on l'a choisi, Nansen, parce qu'il s'est précédemment occupé du rapatriement des prisonniers de la Première Guerre aussi.
Oui, le même lien, oui.
C'est quand même pas anodin de... Sauf que à l'époque, on va placer la gestion des réfugiés non pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ou de la Guerre, mais des Affaires étrangères. Oui. Et donc le ministère des Affaires étrangères s'occupera, sera le voilà le ministère de tutelle des réfugiés jusqu'à Sarkozy, qui a à nouveau fait basculer la prise en charge des réfugiés du côté donc du ministère de l'Intérieur en changeant l'OFPRA de secteur.
Oui, mais c'est vrai que sur la question de la continuité avec aujourd'hui, ça serait vraiment intéressant aussi de faire une histoire longue, une histoire sur la longue durée du 19e siècle jusqu'à nos jours, de l'accueil de réfugiés dans certaines villes qui ont parfois oublié la trace de l'accueil de ces étrangers, dont pourtant elles ont fait l'expérience de manière importante à l'époque.
Repartir d'une Poitiers pour faire... une étude de très longue durée.
C'est sûr que les sources, les sources aux archives départementales le permettent. Il y a beaucoup de matériaux. Il y a aussi pas seulement des archives policières administratives classiques. Il y a aussi, par exemple, un dossier très intéressant d'archives privées déposé par un réfugié polonais. C'est assez unique, en fait, en France. Un réfugié polonais qui a déposé ses archives personnel, donc aux archives qui ont abouti aux archives départementales, et on a en fait tout son dossier administratif, personnel. C'est un réfugié polonais qui arrive donc avec la grande émigration en 1832, qui va d'abord être envoyé en Algérie, puisque beaucoup de réfugiés ont alors été envoyés pour participer à la conquête de l'Algérie à travers la Légion étrangère, mais pas seulement, comme colons aussi. Donc il va tenter cette aventure algérienne, mais sans grand succès, comme beaucoup. Il revient en France en France métropolitaine en 1835, et là il s'installe donc dans la Vienne, et il va entreprendre d'abord des études de droit, la faculté de droit, et ensuite de médecine, il se reconvertit, et devient médecin. Et ça devient un médecin vraiment une sorte de notable assez connu en fait localement, puisque voilà, il va s'occuper notamment des indigents, ça va être un médecin pour les pauvres, et voilà, il va être inscrit à l'Académie de médecine, etc. Mais on a tout son parcours à travers ses archives personnelles, et c'est vraiment quelque chose d'unique. Ouais. Donc je pense qu'il y a, bon alors ça c'est pour le 19e, après il faudrait voir pour le 20e siècle, mais il y a des idées possibles effectivement d'études sur la longue durée.
Oui, ne serait-ce que les sociabilités dont vous parliez, la manière dont les réfugiés continuent leur combat en se retrouvant dans des cafés, dans des salons, je pense au salon de Madame Ménard d'Orient aussi, qui a été très connue pour abriter, recevoir des réfugiés des empires centraux. Et puis, oui, je pensais à tous ces banquets également, cette pratique du banquet, c'est quelque chose qui se... Qui, avec des toasts portés à la France et la poursuite d'un combat politique. Ça, c'est quelque chose de transversal, voilà, qu'on pourrait aussi... Et je me demandais en vous écoutant si on avait des archives pour faire, par exemple, une micro-histoire de la vie dans les dépôts. Mais vraiment, pas du point de vue de l'administration, mais de ce qu'était la vie dans les dépôts, à partir du moment où j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, au sein d'un même dépôt, plusieurs groupes.
Bien sûr.
Si j'ai bien compris,
oui, alors dans l'idée, polonais, en fait, on est, voilà, dans l'idée,
espagnol,
on essaie de séparer,
mais justement, est-ce qu'on a
arrivé de, effectivement, de voir ces groupes nationaux coïncider? Alors effectivement, ça serait dans l'idéal, bien sûr, voilà, extrêmement passionnant de pouvoir mener cette micro-histoire des dépôts. En pratique, c'est vrai qu'on a quand même le point de vue de l'administration qui est très important dans les sources dont on dispose. Alors, on a quelques sources privées qui parlent de la vie dans les dépôts, mais c'est pas un moment, si vous voulez, c'est pas le moment glorieux de la vie en exil, donc c'est pas le moment qu'on va le plus mettre en avant. On a en revanche quelques effectivement témoignages épars dans certaines sources. Je pense par exemple à un Espagnol qui s'appelle Eugenio de Ochoa, qui va publier un livre sur El Emigrado. Donc c'est en fait Emigrado en espagnol, c'est l'équivalent de réfugié, hein, pratiquement. Et il décrit cette vie dans les dépôts. Il parle de l'exilé espagnol qui s'ennuie dans la vie, enfin dans les casernes dans lesquelles parfois ils sont internés. Hein, puisque ça peut, en fait, la vie dans les dépôts peut varier. C'est-à-dire qu'on peut soit être interné dans une ancienne caserne, dans une école, etc., désaffecté, par exemple, dans des lieux de ce type-là où on peut prévoir un hébergement collectif. Mais il y a aussi en parallèle des hébergements chez l'habitant qui sont possibles, hein, pour ceux donc, qui disposent notamment de ressources nécessaires. Donc c'est pas forcément, faut pas penser assignation en résidence comme synonyme d'encasernement systématique. Hein, c'est pas du tout le cas. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est que d'une manière générale, cette vie dans les dépôts est quand même, voilà, synonyme d'ennui, de disputes, de bagarres. On voit beaucoup de bagarres, alors internes au groupe, qui est désœuvré, qui s'ennuie, et donc c'est effectivement pas très propice à la bonne entente. On a aussi effectivement des témoignages sur des affaires de mœurs, hein, très importantes, puisque localement, il va être très mal vu que les réfugiés aient des aventures avec des Françaises, en particulier mariées. Et là-dessus, on a quand même beaucoup d'éléments à travers les sources policières qui permettent d'entrer dans la vie quotidienne de ces réfugiés, même si ce n'est pas voilà, l'idéal et qu'on aimerait disposer d'archives privées plus précises, mais ça reste quand même un point d'entrée.
D'ailleurs, pour les étudiants, hein, voilà, les sources policières sont effectivement une mine pour... scruter des zones difficiles, des zones de vie, des zones d'ombre, si difficiles à percevoir autrement quand on travaille sur des phénomènes éloignés. Voilà, on va se quitter sur tous ces échanges.
Merci
vraiment passionnants. Merci encore. S'il faut signer, on a ce qu'il faut. Ah oui, non, il faut absolument qu'on quitte la salle au plus vite parce qu'il y a une conférence qui suit.
Merci.